Je vais maintenant donner la parole à Alain Prochiance, qui est professeur ici. C'est lui qui a la chaire de processus morphogénétique et qui dirige au Collège de France le Centre interdisciplinaire de recherche en biologie. Sa leçon inaugurale a été publiée en 2008 sous le titre de « Géométrie du vivant » et il a publié récemment un ouvrage adressé à un public élargi par rapport à la communauté scientifique qui a pour titre « Qu'est-ce que le vivant ?». Et Alain a aussi reçu l'an dernier le Grand Prix national de l'INSERM parmi de très nombreuses autres distinctions qu'il m'a demandé de ne pas mentionner pour prendre la parole plus rapidement.
Merci Pierre. Donc, merci d'avoir organisé ce colloque avec quelques collègues, dont moi. Et donc, je vais vous parler de la cité des sciences et des sciences dans la cité, sauf que je vais faire le contraire, je vais parler de sciences dans la cité avant de vous parler de la cité des sciences. Donc, cette communication se situe dans la continuité, d'une certaine façon, du débat que nous avons eu hier sur le thème de l'innovation et de la liberté de recherche. Elle se donne pour but, en fait, d'attirer l'attention sur le manque de travaux sociologiques portant sur la place des sciences dans nos sociétés contemporaines, dont la société française avec ses particularités, mais aussi le manque de travaux sur le fonctionnement même de la société scientifique et l'ampleur des changements auxquels elle a été soumise depuis un petit nombre d'années, en particulier sous les effets de ce qu'on appelle la mondialisation. Je signale tout de suite que les réflexions qui suivent sont celles d'un biologiste et qu'elles concernent d'abord la biologie. Elles ont donc une valeur limitée, même si les autres disciplines scientifiques sont plus ou moins touchées par des questions proches. Mais il y a forcément des différences qui pourraient aussi constituer un objet d'étude pour sociologues et philosophes des sciences. Cela éviterait peut-être à terme, même pas à terme, de plaquer les mêmes schémas prétendument universellement valables sur l'organisation de toutes les disciplines. Donc je commence par les sciences dans la cité, pour dire plus simplement à quoi sert la science. En général, cette question reçoit deux réponses. La première est que la science produit des connaissances nouvelles. La seconde est qu'elle est au service de la société. La synthèse étant que la production de connaissances nouvelles doit être mise au service de la société, liant la recherche au développement. C'est là une réponse très vague qui ignore les questions que le développement peut poser à la recherche fondamentale. Elle est alors en amont et de celle-ci et non l'inverse. Et le temps surtout que peuvent prendre ces interactions entre l'amont et l'aval. Cette question du temps est évidemment essentielle car le temps de la connaissance et ses chemins, souvent surprenants, qui surprennent parfois les inventeurs eux-mêmes, le fameux « comment ai-je trouvé ?» Ce n'est pas toujours facile de savoir comment on a trouvé quelque chose. Ne répondent que rarement au ressenti de l'urgence et à l'impatience qui en découle. Elle laisse aussi ouverte la possibilité d'une activité scientifique non utilitaire, à quelque terme que cela soit. Si, dans un premier temps, on écarte la question de la compétitivité industrielle pour se pencher sur l'agriculture ou sur la médecine, l'urgence est là toujours présente, toujours reconnue aussi, de nourrir ou de guérir. Ceux qui ont un certain âge parmi vous ont entendu parler de Ivan Michurin, de Trofim Lysenko, qui, au nom d'une science pour le peuple, ont détruit la génétique soviétique, alors une des premières du monde, et critiqué les généticiens bourgeois qui avaient mieux à faire, je cite, que de compter les poils de mouche. Nikolaï Vavilov, agronome et généticien de renom, membre du Soviet suprême de 1931 à 1940, est arrêté en 1940 pour avoir défendu la génétique, cette science bourgeoise. Il mourra en prison en 1943. Une telle folie, qui en plus de ses effets sur la science a eu des répercussions catastrophiques sur l'agriculture soviétique, n'est évidemment possible que dans un régime totalitaire. Elle doit cependant nous inciter à être méfiants quand les décideurs ou les jurys citoyens sommes les scientifiques de répondre à l'urgence sociale. Il y a de cela très longtemps, il y a prescription sans doute, j'avais parlé de lysenkisme rampant à propos de cette incitation permanente à travers les programmes déclinés en questions sociétales à mobiliser les savants autour de grandes causes, nationales ou européennes, industrielles ou humanitaires. À l'encontre de ces injonctions, un certain nombre d'exemples illustrent à l'envi que les découvertes récentes les plus porteuses d'espoir pour la médecine ont été faites dans un esprit de pure curiosité cognitive. Les transposons et l'instabilité des génomes découverts par Barbara McIntosh, qui s'intéressait à la variété des couleurs des grains de maïs dans un même épi, vous voyez ici Barbara, en 1950, eu le prix Nobel 40 ans plus tard, le phénomène d'interférence à ARN, mis en évidence à partir d'expériences sur la couleur des pétales du pétunia par Richard Jorgensen, les cellules souches neurales chez l'adulte, découvertes par Fernando Nottebohm, qui s'intéressait aux chants des oiseaux. Ou encore les IPS, dont vous avez entendu parler hier, qui, avec les cellules souches, ouvrent sur la médecine régénérative et offrent d'ores et déjà des outils nouveaux au criblage des médicaments, dont il a été hier question, et vous savez que cette découverte a un lien avec des questions fondamentales posées au XIXe siècle par August Weismann sur la totipotence des génomes des cellules somatiques. Quel plan Alzheimer, quel plan cancer aurait pris la décision de financer un projet sur les pétales de pétunia? En retour, je pourrais avoir la malice, ça m'arrive, de demander le nombre de projets financés sur de tels plans qui n'ont abouti à rien ou à pas grand-chose. Or, ce n'est pas le peuple qui ne comprend pas. Il a bon dos en dépit du populisme, mais une élite sociale et politique qui a très généralement acté son divorce d'avec les sciences. Je reviendrai dans un moment sur ce divorce qui n'est pas uniforme de par le monde, mais est, hélas, particulièrement marqué en France. En attendant, et afin de lever toute ambiguïté, je voudrais dire que je suis extrêmement favorable au développement de la recherche dite translationnelle, et le terme appliqué ne me dérange nullement. À partir du moment où ce n'est pas l'un ou l'autre, le cognitif ou l'appliqué, mais bel et bien l'un et l'autre, avec la possibilité de passer de l'un à l'autre, si cela s'avère nécessaire, ou plus simplement, si cela nous chante. Pour illustrer toute l'importance que nous devons accorder à la recherche appliquée, je vous montre dans cette diapositive les chiffres publiés par le journal Le Monde du 1er novembre 2011 dans une comparaison des recherches, des dépenses en recherche et développement entre la France et l'Allemagne. Si le coût horaire de la main-d'œuvre dans l'industrie manufacturière était quasiment identique dans nos deux pays en 2011, les investissements en recherche et développement, qui étaient similaires en 1997, n'ont cessé de décroître en France quand ils augmentaient en Allemagne pour atteindre un différentiel de 0,7% du PIB en 2008. En ce qui nous concerne, cela était essentiellement le résultat d'une baisse des investissements dans le secteur du développement, puisque notre investissement en recherche académique reste constant et aux alentours de 1,1%. Mais je reviendrai sur ce que ce chiffre peut aussi cacher. Nous sommes donc toujours bloqués à 2% du PIB, quand nos voisins ont accru leurs dépenses en recherche et développement depuis 2005, au point d'atteindre aujourd'hui le seuil de 3% du PIB. C'est un point sans que la recherche académique ne soit sacrifiée. C'est un point très important, évidemment, et l'on peut envier les instituts Max Planck, qui garantissent aux meilleures équipes allemandes un financement plus que confortable, en même temps qu'une totale liberté de recherche. Je cite Peter Grus, directeur de Max Planck. C'est une grande réussite du mandat de Mme Merkel comme chancelière que d'avoir fermement ancré la science comme un des piliers de la richesse de notre pays et de sa puissance d'innovation. Il est vrai que Mme Merkel est physicienne. N'étant pas économiste, je veux bien croire que le manque de compétitivité de notre industrie est pour une part lié au coût du travail, mais je m'interroge aussi sur les conséquences dans ce domaine de la faiblesse des investissements français en recherche et développement. C'est sans doute à partir de la prise de conscience de ce problème qu'a été institué le crédit impôt recherche, CIR, qui, si l'on suit la Cour des comptes, montera en 2014 à quelque 6 ou 7 milliards d'euros, deux fois plus que les crédits du CNRS, toutes disciplines confondues, et salaires compris. Pour un bénéfice mis en doute par cette même Cour des comptes et par la pente négative des investissements en recherche et développement hors recherche académique. Par ailleurs, si l'on regarde quels frais peuvent être mis sur le compte du crédit impôt recherche, on voit que les contrats passés entre les industries et les organismes de recherche relèvent de ce crédit. En clair, vous pouvez voir ici, les dépenses de recherche externalisées confiées à tout organisme public, université, fondation reconnue d'utilité publique, association de la loi de 1901 ayant pour fondateur et membre un organisme de recherche ou une université, dépenses retenues pour le double de leur montant, à condition qu'il n'existe pas, etc., etc. En clair, cela signifie que ce crédit impôt recherche peut, pour une part, contribuer à détourner les laboratoires publics, dont les budgets de fonctionnement stagnent, de leur mission principale de production de connaissances nouvelles, qui sont pourtant le socle des futures découvertes sociétales et des futures applications. Je vais vous donner un exemple chiffré. Si nous prenons les 130 millions d'euros du crédit impôt recherche accordé à la première industrie pharmaceutique française, qui diminue le volume de ses activités de recherche en France, cela semble peu, 130 millions. Mais si on compare aux 1,2 milliard de crédits alloués à l'INSERM et à la biologie du CNRS, 80% allant dans les salaires, ces 130 millions représentent un gros tiers du budget de fonctionnement de leurs équipes. Ce qui veut dire qu'avec ces 130 millions, CNRS et INSERM pourraient doubler le budget de 33% des équipes, les meilleures, il va de soi. Et au passage, faire passer leur dépendance aux appels d'offres compétitifs est très souvent ciblé sur des projets sociétaux de 75% de leur budget de fonctionnement, en moyenne, pour le centre que je dirige et qui est très représentatif, à seulement 50%, ce qui est raisonnable, je crois. Je reviendrai sur ce point dans la deuxième partie de mon exposé. Il faut aussi se pencher sur les conséquences de ce sous-investissement sur l'emploi scientifique. Des industries renforçant en interne, grâce au crédit impôt recherche, leur propre département de recherche et de développement devraient être le débouché professionnel naturel d'une grande partie des doctorants et post-doctorants que nous formons dans nos laboratoires. Mais cette utilisation du système conduit à ce que l'embauche soit pour une part qu'il conviendrait de calculer, remplacée par des emplois précaires et mal payés au sein même des laboratoires publics. Pour contrer cette dérive, faire toujours plus de précarité pour les jeunes chercheurs, la loi Sauvadet vient de limiter à 6 ans la durée des CDD. Mais qu'est-ce qui se passe après si on ne décide pas parallèlement de recruter les chercheurs plus jeunes et avec des salaires décents dans tous les secteurs de la recherche et du développement, dans le public comme dans le privé? Il se passe ce que nous constatons chaque jour, une désaffection des étudiants pour la recherche. Il fut un temps, c'est un vieux monsieur qui vous parle, il fut un temps où la presque certitude d'un emploi et celle d'avoir une grande liberté d'investigation compensaient sur le plan symbolique les salaires modestes de la fonction publique. Mais ce même salaire modeste, plus une recherche contractuelle, sans forte probabilité d'embauche, tardive quand elle a lieu, et avec une liberté intellectuelle qui se réduit, détourne les jeunes des métiers de la recherche. Ce n'est bon ni pour la recherche académique, ni pour la recherche privée. Et ce n'est pas la fête de la science qui va inverser la tendance. Depuis 22 ans qu'elle existe, je crois qu'on s'en serait rendu compte. Pour ce qui est de la France, ce désintérêt des politiques pour les sciences, avec des périodes d'exception où elles sont apparues aussi par leurs applications, y compris militaires, comme les garants de l'indépendance nationale, ne date pas d'hier. Je vous livre le commentaire désabusé de Claude Bernard dans son rapport sur l'état des sciences physiologiques et la comparaison, déjà, avec la Prusse. La science, en effet, ne connaît pas de frontières, et les savants de toutes les nations ne forment qu'une vaste famille qui travaille au profit de l'humanité. Ça, c'est... Cependant, il est énormément utile de comparer le développement scientifique chez les différents peuples. Dans une juste appréciation des progrès comparatifs des sciences, on peut puiser le sentiment d'une noble émulation et trouver les motifs d'un perfectionnement scientifique réciproque. On peut voir, par exemple, que si l'Allemagne, qui a la plus large part dans les publications de la science physiologique contemporaine, cela vient de ce que les moyens de culture de la physiologie expérimentale y sont considérables et bien institués. Il en est résulté que nulle part ailleurs, il ne s'est formé autant de physiologistes éminents et que nulle part ailleurs les élèves ne trouvent autant de moyens d'études en même temps qu'une bonne direction scientifique. C'est donc là un enseignement dont les autres pays peuvent profiter. En résumé, pour avancer dans la physiologie comme dans les autres sciences expérimentales, il faut deux choses. Le génie qui ne se donne pas, les moyens de travail dont on peut disposer. La physiologie française ne réclame ce qu'il est facile de lui donner. Le génie physiologique ne lui a jamais manqué. Il existe même une fierté de la culture scientifique parmi nos élites, en contradiction dangereuse avec l'importance de la science et de la technique dans nos sociétés, sauf à plaider pour une idéologie mortifère de la décroissance. On peut faire l'hypothèse qu'il s'agit en partie d'une position de classe, car si l'origine de classe joue un rôle important dans les carrières politiques ou financières, elle le fait beaucoup moins dans les carrières scientifiques, où le manque de talent ne peut se cacher longtemps derrière les apparences. Comme pour un danseur, il saute ou il ne saute pas. C'est la raison pour laquelle la science jouait jusqu'à récemment un rôle important d'insertion sociale. Elle jouait ce rôle aux USA quand les laboratoires accueillaient la diaspora qui fuyait le nazisme, non sans rapport avec les succès de la science américaine. Elle le joue encore, toujours aux USA. Il suffit de se promener dans les laboratoires pour y constater la diversité des faciès. Il est vrai que les modifications idéologiques qui accompagnent la mondialisation font que les fils de famille préfèrent un destin de banquier ou d'avocat à celui de chercheur ou de littérateur. Les filles de famille tout aussi bien. Parité oblige. Ce qui me permet de passer à la question de la cité des sciences et de ses transformations. Cette partie sera courte, car nombre des points importants apparaissent en filigrane dans ce qui vient d'être dit. D'abord, il est clair que la recherche est une activité mondialisée. Galilée conversait avec Kepler sur la forme des trajectoires des planètes, cercle ou ellipse. C'est Kepler qui avait raison. Descartes aussi était dans la boucle, mais s'était retiré de la conversation. On n'est jamais trop prudent. Les souvenirs de Giordano Bruno étaient toujours brûlants, si j'ose. Bref, il n'y avait que 30 ans entre 1600, quand on a brûlé Giordano Bruno, et 1630, Galilée. Bref, ça pouvait inciter à la prudence, effectivement. Bref, ce qui suit s'intéresse plutôt aux modifications au niveau mondial et à leurs effets locaux, différents selon les pays et les disciplines, de la structure de la cité scientifique, sans mettre en cause une mondialisation évidemment nécessaire à la production des connaissances. Je n'ai pas le temps de m'attarder longuement, seulement d'indiquer des pistes de réflexion autour de plusieurs axes qui pourraient sans doute faire l'objet d'études concrètes, sociologiques entre autres. Le premier est que la liberté de la recherche est contestée. Il reste que certains pays sont capables de protéger cette liberté en créant les outils adéquats, en limitant les financements indispensables. Nous avons parlé de l'Allemagne et des instituts Max Planck. Nous aurions pu parler de la fondation Howard Hughes aux USA. Et il est rassurant de voir que l'Europe a été capable de mettre en place les programmes ERC qui protègent l'innovation pure. Je rappelle que le budget du CNRS, tout compris, est inférieur à 4 milliards. Il ne s'agit donc pas de masses financières énormes, mais de la compréhension du caractère nécessaire de ces investissements. Le deuxième axe est que la compétition est devenue violente. La science a toujours été un lieu de compétition, mais aussi celui d'une conversation entre amis, saine émulation. Cette conversation s'éteint et la part du jeu diminue. Pas du J-E, du J-E-U. Les enjeux sociétaux, brevets, applications, industrie, défense nationale, fournissent une explication. Mais par-delà ces explications évidentes, peut-être trop évidentes, on ne peut ignorer les changements dans les modes de financement sur contrat compétitif qui introduisent nécessairement un esprit de compétition. Quitte à prendre le sens commun à rebrousse-poil, que je ne confonds pas avec le bon sens, je crois bon qu'une part des financements ne soit pas compétitive et sans pouvoir proposer un chiffre idéal, je considère peu satisfaisante la situation moyenne actuelle de 75% de crédits de fonctionnement sur contrat. Les raisons en sont les suivantes. Premièrement, même au sein d'une communauté comme un centre de recherche, cela crée un climat de chacun pour soi, nuit à la générosité des échanges et de ce fait à l'innovation scientifique. Deuxièmement, cela induit une manie des classements. AERS, Shanghai, facteur H, facteur G, index de citation et tutti frutti, qui, outre qu'ils sont disgracieux, sont à l'origine de décisions organisationnelles chronophages, dispendieuses et bureaucratiques, dont les effets positifs sur la qualité de la science sont très discutables. Enfin, et peut-être surtout, l'évaluation anonyme ou par un board donne une prime aux sujets les plus consensuels. C'est l'équivalent de l'audimat. Or, le consensus est rarement en faveur de l'exception, surtout quand elle n'est pas portée par un grand nom. Le résultat est la promotion des recherches qui suivent le sillon. Il en faut, c'est certain, et elles constituent nécessairement la majorité de nos travaux. Mais il ne faut pas que ça. Les enquêtes suggèrent un accroissement de la fraude scientifique, conséquence le plus souvent d'une pression sans précédent exercée sur les chercheurs, mais aussi du fait que tout doit marcher toujours. La prise de risque et le droit à l'erreur, qui sont des moteurs essentiels de l'innovation, sont proscrits. Je plaide pour moi. Le troisième axe, pour le droit à l'erreur, bien sûr, le troisième axe est que nous allons à marche forcée vers le modèle de doctorants et de post-doctorants payés avec un lance-pierre et dirigés par un investigateur principal, pratiquement sans intermédiaire. Lequel investigateur est sur un marché international du travail, un véritable mercato qui rend difficile pour certains pays de suivre le rythme. Suivre le rythme, cela veut dire conserver les meilleurs quand nous en avons ou les attirer quand c'est possible. En fait, le mercato est double, celui des salaires et celui des moyens de travail qui assure qu'on pourra mener une recherche de haut niveau. C'est aujourd'hui encore la variable la plus importante, même si le paysage pourrait changer rapidement. Un quatrième axe très important est le système des publications en plein chamboulement, avec d'un côté le système d'accès libre, Open Access, qui est à la fois un espoir d'échapper à la dictature d'une poignée de grandes revues, mais présente aussi le risque d'une publication non contrôlée de données discutables, voire le dossier paru dans la revue Science. Excusez-moi, là, je crée un peu de recherche. Je suis en train de montrer des choses que je n'aurais jamais dû montrer. Voilà. C'est pas grave. Encore aujourd'hui, des carrières de chercheurs, à commencer par leur embauche, dépendent de quelques publications dans les grands journaux, privés, à facteur d'impact élevé, et de moins en moins dans les journaux attachés à une société savante. Ce système de publication mérite d'être étudié, en particulier la signification des facteurs d'impact à court terme, calculés sur 2 ans, comme c'est aujourd'hui le cas pour le classement des revues. Ce qui donne un avantage aux travaux à la mode, qui peuvent avoir un grand moment de notoriété avant de tomber rapidement dans l'oubli. Un travail de fond, mais parfois 5, 10, 15 ou 20 ans à s'imposer. Un autre point important est le rôle des éditeurs, c'est-à-dire ces chercheurs qui ont cessé de faire de la science, qui siègent dans les grands journaux et qui décident de ce qui doit être publié et ce qui doit ne pas l'être. Pour ces éditeurs, on peut donc se poser les questions suivantes. Comment sont-ils choisis ? Sur quels critères sélectionnent-ils ce qui est intéressant et éliminent-ils sans même envoyer à référer par les pairs ce qui ne l'est pas ? En quoi leur choix influe-t-il sur les thèmes de recherche ? Contribuent-ils à normaliser l'activité scientifique ? Ont-ils des conflits d'intérêts avec leur laboratoire d'origine ? Une autre question concerne la dichotomie entre l'importance institutionnelle de ces grandes revues et la place de la lecture des articles dans la circulation des connaissances. Certains chercheurs disent qu'ils ne lisent plus et qu'ils préfèrent voyager, communiquer, rencontrer les éditeurs avec qui il est toujours utile d'établir un contact personnel, vous l'aurez compris, et être informé rapidement des dernières tendances pour rester dans le coup ou à la mode. Quid dans ces conditions des projets qui font un pas de côté ? Un cinquième axe, ce serait bon d'étudier, est le changement dans les standards technologiques qui donnent accès à ces revues prestigieuses, lesquelles font souvent de la publicité pour les industries qui fournissent les outils technologiques devenus de ce fait indispensables à la survie des équipes. Ces mêmes industries se retrouvent derrière le lobbying qui précède la définition de grands programmes de recherche, y compris au niveau européen. Parfois, ces technologies sont effectivement indispensables et ouvrent des espaces originaux et importants à la connaissance. Parfois, elles ne le sont pas. Parfois même, elles s'imposent aux dépens de techniques plus robustes, par exemple l'imagerie cellulaire qui a détrôné le fractionnement subcellulaire ou la microscopie électronique. Une conséquence possible est la mise hors course des pays où les moyens financiers sont trop limités, ce qui favorise la fuite des cerveaux vers les pays riches. Étant donné l'importance de la recherche scientifique sur le développement économique à long terme, on peut imaginer les conséquences de ce phénomène dans la compétition économique mondiale et le développement des pays en question, futurs. Les investissements colossaux de certains pays asiatiques en recherche et développement ont justement pour but de freiner la fuite des scientifiques et de faire revenir ceux qui sont partis essentiellement aux USA. Sur toutes ces questions, et sans doute beaucoup d'autres qui mériteraient notre attention, je ne porte pas de jugement, même si je peux avoir des opinions. Mais si l'on croit à la valeur de la connaissance, on admettra qu'il est urgent que les sociologues se penchent sur la double question de la place de la science dans la société, item dont certaines facettes ont été développées dans la première partie de mon exposé, et sur la structure de la société scientifique et ses évolutions. Une fois encore, et pour finir, je veux rappeler que les éléments de réflexion que je viens de vous soumettre sont ceux d'un biologiste et que toutes les sciences ne fonctionnent pas de la même façon. Il faudra se garder de généraliser d'un domaine à un autre. Encore du travail pour les sociologues. Merci.